Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Regard Coupable, un artiste que vous avez peut-être déjà croisé sur Instagram au travers de ses dessins érotiques. Avec Regard Coupable, on entame une discussion autour de la vie d'artiste, ce que cela implique et tout le travail qu'il y a derrière, les difficultés que l'on peut rencontrer pour en vivre, mais également les possibilités offertes par les réseaux sociaux. On s'interroge également sur les barrières qui existent entre rêve et réalité, si elles sont réelles et comment faire pour réussir à les lever. On échange sur la difficulté d'être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui et la nécessité de savoir passer outre les critiques sans se remettre en question et surtout arriver à passer au-dessus du syndrome de l'imposteur. Si vous écoutez régulièrement In Power, je serais ravie de lire vos avis sur le podcast que vous pouvez me laisser sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser. Et un grand merci à ceux qui prennent le temps de s'abonner et de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite pour ce tout nouvel épisode d'In Power. Bonjour Regard Coupable, bienvenue sur In Power, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Ma première question pour toi, c'était qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ?
Alors j'ai toujours eu plusieurs rêves, j'en ai toujours aujourd'hui. J'ai toujours été passionné par la science et la science-fiction.
Ok.
Donc voilà, le ciel, les étoiles, l'exploration spatiale, c'est quelque chose qui me passionne et j'aurais beaucoup aimé contribuer à ces avancées-là,
ouais.
Qui pour moi semble être le sujet le plus important de l'humanité. La conquête
D'accord.
spatiale et.
Ok, ouais, c'est un parti pris, hein.
Et à côté de ça, je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans et voilà, j'ai toujours aussi espéré percer dans la musique et pouvoir en vivre. Et c'est très compliqué.
Ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que le dessin, ça a été une seconde option ou est-ce que tu as été toujours aussi attiré par le dessin et par l'art que par la musique ?
J'ai été attiré différemment puisque le. La musique, c'est quelque chose que j'ai demandé à l'âge de 5 ans à mes parents. Ma mère est prof d'art plastique, donc elle m'a transmis aussi ce goût-là.
Ouais,
mais c'est venu plus tard. Même, je me souviens, 2 ans avant de rentrer dans mon école qui s'appelle Penningen,
l'ESAC
Penningen, je voulais être ingénieur, je sais pas, nucléaire, un truc qui n'avait absolument rien à voir.
Ah ouais, et pourquoi est-ce que c'est parce que tu t'épanouissais pas dans le système scolaire que tu t'es dit « bon, finalement, je vais aller dans une école d'art » ou est-ce que juste tu t'es rendu compte que t'aimais plus ça et que c'était pas fait pour toi ?
Non, je sentais que j'avais une sensibilité, puis je fréquentais beaucoup de gens qui étaient dans des écoles d'art aussi, qui avaient des âges plus grands que moi, notamment tous les potes de mon grand frère, qui étaient dans cette école Penningen et qui me racontaient un peu leur quotidien et tout, donc ça m'intéressait de plus en plus.
Donc c'est un truc de famille, si je comprends bien un peu...
Non, je sais pas.
Parce qu'en fait, je me demandais si t'avais été dans un environnement où t'avais pu t'épanouir artistiquement, parce que je trouve qu'à l'école, c'est pas du tout le cas et qu'on n'est pas du tout encouragé à le faire. Et donc si jamais on n'a pas des parents ou des amis, tu vois, qui nous sensibilisent un peu à ça, c'est assez dur de poursuivre dans cette voie-là.
Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir toujours été soutenu par mes parents, autant les deux. Après, vraiment, la sensibilité, je pense que c'est ma mère qui me l'a transmise et qui m'a ouvert les yeux sur l'histoire de l'art et sur la curiosité. Et voilà, enfin, j'ai fait des musées tous les week-ends pendant toute ma jeunesse.
Donc, ouais, et ça t'a pas dégoûté ? Parce que moi, j'ai une théorie comme quoi il faut pas emmener les enfants trop jeunes au musée parce que ça les dégoûte.
On détestait ça avec mon frère quand on était petit.
Tu vois ?
On tenait pas 2 secondes, mais petit à petit,
On y prend goût. Moi, c'est quand j'ai été autonome et indépendante et que j'ai eu le choix d'y aller moi-même que j'y suis allée. Alors que quand c'est mes parents qui voulaient m'amener, je faisais une espèce de rejet.
Ouais, c'est sûr.
Et est-ce qu'on a déjà essayé de te faire faire ce que tu ne voulais pas faire ?
Bonne question. Non, j'espère non. Je pense pas que ça m'est arrivé. J'espère que ça arrive à personne.
Bah, je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Hein. Enfin, ouais. L'histoire des. En tout cas, sur le podcast, on m'envoie parfois des messages. Moi, j'aimerais faire ça, mais mes parents veulent absolument que voilà, je fasse une école de médecine ou une école de droit. Et en fait, pour certaines personnes, c'est assez facile de s'imposer, et pour d'autres, culturellement, par exemple, culturellement, j'y pense, parce que je sais que dans certaines familles, c'est vraiment compliqué de s'opposer à ses parents, et du coup, il y a des personnes qui sont forcées de faire ce qu'ils n'aiment pas, et généralement, oui, c'est pour suivre des voies dites, je sais pas, prestigieuses, ou tu vois, élitistes, et généralement, au détriment des vraies passions, qui est ce que moi, j'encourage personnellement. Mais donc ça n'a pas aidé ton cas.
Non, ça n'a pas été mon cas et c'est assez effrayant ce que tu me racontes.
Malheureusement, ouais, c'est
une
réalité.
Ça peut créer une frustration à vie et c'est assez terrible, je trouve.
Ouais.
Et notamment de la part des parents qui, pour moi, ne sont pas censés aller à l'encontre de l'enfant. Mais c'est sûr que j'avais une voie qui était possible parce que mon père est avocat et j'aurais pu également me rabattre là-dessus.
Ouais.
Parce que voilà, il y a tout un truc qui est mis en place déjà, et voilà, ça m'aurait facilité beaucoup de choses. Mais j'ai choisi la voie artistique, et du coup, je n'ai aucune aide de ma famille, parce qu'ils ne sont pas spécialement implantés dans ce milieu-là. Mais non, là-dessus, la seule condition pour pouvoir entrer dans mon école d'art, c'était d'avoir le bac, avec au moins, au moins d'avoir le bac. Mais pas d'avoir de mention et tout. Donc, mon père m'a dit, si t'as le bac, tu peux aller dans cette école.
Donc, voilà, ça a relevé le défi.
Il a rabaissé ses conditions à juste le bac. Ce qui est le minimum.
Ouais, non, mais je comprends. Mais c'est vrai que moi,
parce que
je pense...
c'est une école où tu peux rentrer sans bac, en fait. Donc, c'est pour ça. C'était un peu tentant de tout foutre en l'air et de juste...
Ah, donc c'était juste, c'était juste la condition de ton père.
Ouais.
Et ensuite, ils étudient tes dessins, ta motivation.
Non, il y a une première année qui est une soi-disant de prépa intégrée. Il y a juste une nombre de places limitée, mais t'as pas besoin d'avoir un dossier ou quoi que ce soit. Mais après, tu peux rentrer en première année aussi. Et là, ça demande des dossiers.
D'accord.
Mais l'admission... En année zéro, en année prépa, c'est tout le monde, ils prennent tout le monde.
Okay.
Et ils font une énorme sélection à la fin de cette année.
Ouais.
Ils virent les trois quarts et gardent juste la crème.
Ok. Et toi, t'as un bon souvenir de ces années d'études? Ça t'a aidé à...
J'ai un très bon souvenir de ces 5 ans passés à Penningen.
Ouais.
Parce que je sais que ça m'a vraiment formé et que je suis efficace et compétent grâce à cette école. Je le sens en moi et je vois même des différences avec d'autres étudiants d'autres écoles. On a des formations très différentes. Je dis pas qu'ils sont pas efficaces ni performants.
On a
des visions différentes, une approche différente. Et au final, c'est vraiment l'école qui me l'a appris. Je l'ai pas inventé.
Ouais.
Et notamment sur la force de travail et la capacité vraiment à passer du temps à travailler.
Mm.
Et je pense que c'est une très très bonne école.
C'est vrai qu'en fait, je trouve qu'on n'associe pas toujours discipline, rigueur avec l'artiste.
Oui, mais d'ailleurs...
Et je pense que si jamais on n'a pas un minimum de structure, c'est super facile de se complaire dans la figure de l'artiste qui vit à dessiner la journée. Mais...
D'ailleurs, les élèves, le peu d'élèves qui se disent artistes dès les premières années sont dégagés très rapidement parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter aux différents exercices. Ce que Penningen apprend vraiment, l'art graphique au sens large, de la typo, l'histoire de l'art, la photo, le motion design, la peinture.
C'est bien,
donc il faut vraiment s'adapter.
Ouais.
Et si tu as un style déjà trop prononcé, tu ne peux pas t'adapter.
Ouais.
Et du coup, mais après, c'est un enseignement très particulier. Et je me souviens d'une phrase qui m'avait choqué, c'est la première chose qu'ils nous ont dit en première année. Donc... on arrive premier jour de classe dans Penningen, ils nous disent « Vous ne serez jamais des artistes, vous serez des artisans, vous serez des graphistes. Vous fabriquerez des images, mais vous ne serez jamais des artistes. » Donc j'ai trouvé ça très difficile, parce que quand tu rentres en école d'art, tu as quand même ce rêve d'être artiste. Enfin voilà, c'est quelque chose qui te tire vers le haut et qui te donne envie d'explorer des choses. Ils nous ont tout de suite stoppé en disant « C'est pas une école d'artistes ici. »
Pourquoi ils vous ont dit ça? Parce que pour moi, un artisan, justement, c'est une forme d'artiste.
Non, pour moi, il y a une différence entre artisan et artiste. L'artisan répond à une commande. L'artisan fabrique selon une commande, selon une demande. Mm. L'artiste ne répond pas à une demande.
D'accord, c'est la réponse à la demande. Parce que moi, je sais que l'artisanat, ça a un côté, très pratique et manuel.
Oui, c'est autre chose.
Mais voilà.
Le fait de le faire à la main ou non, c'est autre chose.
Et donc, en gros, eux, voulez-vous dire, vous allez dépendre, entre guillemets, des autres?
Vous allez devenir des directeurs artistiques, et des graphistes, et des directeurs de création, ce qui est aussi très noble et prestigieux. C'est
Mais ça a cassé un peu le rêve utopiste de l'artiste.
Exactement.
Ah, c'est un peu violent, je trouve. Mais parce que je trouve que le rêve, ça, ça aide quand même à se dépasser. Et après, moi, généralement, quand on me dit quelque chose comme ça, j'ai limite envie de leur prouver le contraire. Donc j'espère que ça a pu motiver certains à... Parce que toi, en soi, là, t'es artiste. Enfin...
Malheureusement, depuis ce jour-là, je ne sais plus, qui je suis, je ne sais plus si je suis artiste ou non, mais je ne me pose pas trop la question, à vrai dire.
La question existentielle.
Juste, je fais ce que j'aime faire, ouais.
C'est déjà pas mal.
Exactement.
Et pourquoi tu t'es tournée vers le dessin érotique? Je me suis dit, est-ce que c'est venu d'une volonté, d'une idée, d'une inspiration?
Alors non, véritablement, je vais être très transparent avec toi là-dessus. J'avais pas de message ou j'avais pas d'idée à transmettre derrière ce projet Regard Coupable. Il se trouve que il y a quand même une idée qui en sort, mais
ouais.
C'est pratiquement involontaire, j'ai envie de dire. Et j'ai commencé, en fait, j'ai appris le dessin, donc à Penningen, j'ai appris toute technique de dessin possible et imaginable. Et autour de 2015, je sortais avec une tatoueuse. On est restés 3 ans ensemble, et c'est à cette période que j'ai découvert un peu le monde du tatouage et le dessin autour du tatouage. C'est quelque chose qui m'a passionné à ce moment-là, et j'ai commencé à dessiner en hommage aux symboles et aux figures du tatouage traditionnel.
Ouais.
Et notamment, on retrouve pas mal de figures féminines, des représentations de femmes dans le tatouage. Donc je pense que ça vient de là, et naturellement, mes dessins, mes sujets sont devenus de plus en plus féminins, de plus en plus sensuels. Je me suis vraiment attaché au rapport entre les personnes, entre les êtres humains, les émotions. Mais voilà, c'est arrivé très naturellement. Peut-être parce que aussi j'ai peut-être constaté une très bonne réaction autour de moi lorsque je faisais des dessins plus sensuels que d'autres.
Ouais. Non, mais d'accord, mais c'est intéressant de voir quand même que du coup, on va dire que ça n'a pas été quelque chose auquel tu pensais depuis hyper longtemps, et en fait, vraiment, c'est ta copine qui t'a un peu initié, on va dire, au tatouage, et tu t'es dit que t'allais le transposer en dessin. Et j'ai lu aussi, en faisant des recherches sur ton travail, que ta page Instagram avait été descendue à un moment, parce que contenu était jugé indésirable. Et je me suis dit, c'est dingue que la nudité, aujourd'hui, elle soit aussi tabou. Surtout quand c'est de l'art, alors qu'il y a encore des comptes, aujourd'hui, racistes ou borderline, qui sont maintenus sous couvert de la liberté d'expression.
Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi, et moi-même j'ai été terrifié lorsque mon compte a été... Mon premier compte fin 2016 a été supprimé, donc là je n'ai jamais pu le récupérer. Donc j'ai perdu 60 000 followers, ce qui était assez difficile parce que vraiment tu perds la communication avec les gens.
Bah ouais,
c'est le problème d'Instagram, parce qu'il t'offre soi-disant une discussion avec tes fans, avec des gens, un système de messagerie, mais du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Et tu peux pas retrouver, tu connais, t'as ni les adresses mail des gens, ni le téléphone et tout, donc c'est une vraie galère.
Ouais.
Et là, dernièrement, au mois de mai, ils m'ont shut down le compte pendant un mois et demi.
D'accord.
Et il a été réouvert du jour au lendemain, sans aucune explication, donc c'est complètement sur des sables mouvants. Du jour au lendemain, ils peuvent te bannir. Parce qu'on oublie, que c'est quand même une entreprise privée.
Ouais.
Elle fait ce qu'elle veut avec son service, tout simplement.
Non, c'est une dépendance que les artistes ont. En fait, c'est à double tranchant. Parce que moi, au début aussi, je trouvais que c'était assez injuste. Même ces histoires d'algorithmes, où tout d'un coup, tu peux être régalé. Alors que bon, t'avais quand même une communauté qui veut voir tes posts, mais Instagram décide de plus les montrer. Pareil sur Facebook. Et j'en ai parlé avec le fondateur de Minute Buzz, Maxime Barbier. Il disait... Au même temps, les gens oublient que Facebook, Instagram et tout, c'est gratuit. Ça, c'est comme
une entreprise privée, c'est gratuit, donc c'est eux qui décident.
Voilà, en gros, il dit, c'est comme si t'arrives chez quelqu'un et qu'il te demande de retirer ses chaussures, bah tu vas retirer tes chaussures, tu vas te taire.
Donc, tout à fait.
Tu vois,
faut jouer le jeu, en fait.
Voilà,
faut
en fait, il disait, faut jouer les règles du jeu parce qu'il t'offre quand même la possibilité,
enfin, de suivre les règles aussi.
Voilà, et surtout de t'exprimer et de, enfin, aujourd'hui, toi comme moi, on serait pas là sans Instagram.
Tout à fait.
Donc en fait c'est voilà, faut accepter qu'il soit au pouvoir entre guillemets pour le coup, mais après je suis d'accord que il faudrait quand même mettre en place, tu vois, une transparence ou une communication, parce que enfin toi tu ne sais pas pourquoi, quelle est la limite en fait, parce que il y a certains dessins qui passent, voilà, c'est ça, qui passeraient très bien. Donc limite il disait on ne veut pas voir de tétons, parce que je crois que par exemple ça c'est pas possible,
de tétons et de fesses de derrière nues. Non, de l'arrêt de la fesse, faut pas l'avoir.
D'accord.
Mais tu vois, enfin, moi, pour être dans le milieu un peu du sport et tout, il y a des filles qui montrent clairement l'arrêt de leurs fesses.
Ouais,
et,
ouais, bah...
et les photos ne sont pas supprimées. Bon, à mon avis, ça, maintenant, vu le nombre de photos, ça doit être assez compliqué de tout supprimer.
Ouais.
Mais bon, voilà, moi, en tout cas, ce qui m'indigne, c'est que, par contre, on puisse avoir des propos haineux ou des comptes qui incitent à la haine, qui, eux, soient maintenus, quoi.
Ouais, mais après, c'est parce que derrière, c'est pas les... Il y a différents lobbies, et malheureusement, il y a un lobby qui doit être très important, et notamment aux États-Unis, parce que c'est une entreprise américaine. Hein. Les Américains ont un rapport très particulier avec la sexualité et la nudité. C'est-à-dire, leur règle, c'est tu fais ce que tu veux chez toi, mais en public, on ne le fait pas.
Ouais.
Donc je pense que ça doit certainement provenir un peu de ça, d'avoir des lobbies américains qui arrivent à contrôler ce genre de trucs.
Ah ouais, t'as carrément la théorie des lobbies, toi.
Ouais, je pense. Ouais, c'est sûr, à ce niveau-là.
Ah putain, moi j'étais sûre que c'était les teams d'Instagram derrière leur PC qui sont là, genre, à essayer de, à chaque fois, trouver les photos un peu douteuses, qui vont à l'encontre de ce qu'ils veulent partager avec Instagram. Bon, écoute, le mystère reste entier.
Ouais, grave. C'est ça, il faut surtout pas oublier que ce n'est qu'un outil de communication, il faut le prendre comme tel.
Ouais.
Il faut respecter les règles, malheureusement, de la plateforme. Mais il faut pas se limiter qu'à ça, il faut pas... se reposer là-dessus.
Ouais. Et toi, est-ce que t'as eu du mal juste à faire la démarche même d'ouvrir un compte et de partager ton travail? Parce que je sais que ça peut être parfois dur pour les artistes de partager ce qu'on fait.
Absolument pas. Moi, je suis quelqu'un qui initie toujours les projets, et j'ai pas peur d'aller de l'avant et j'adore créer plein de projets, même si un projet va durer un mois et après j'en arrête, c'est pas grave, j'aurais fait la promotion pendant un mois. Non, là-dessus...
T'as pas eu de mal.
Là-dessus, même, je trouve ça cool... Même ce côté un peu anonymat que moi j'essaye de garder.
Ouais, D'être un peu un personnage, ouais, ça a été une volonté. Non, je comprends l'idée. C'est marrant parce que.
Ça crée un détachement aussi. C'est pas mon compte, c'est pas moi personnellement.
Ouais.
Donc je me sens aussi protégé en quelque sorte.
Ouais, non, je suis totalement d'accord avec ça. Mais en fait, c'est marrant parce que c'était. Enfin, aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on soit Instagram, au contraire. Mm-hmm. T'as pris un peu le contre-pied.
Je trouve
qu'Instagram, c'est pas un réseau anonyme.
Non,
tu vois,
c'est vraiment
l'inverse, peut-être, du
la vie privée.
Voilà, c'est
de
ça.
Personnes.
Alors que d'autres réseaux, bon, alors que j'ai pas en tête, mais peut-être justement qui sont morts, il y avait une certaine forme d'anonymat. Et là, aujourd'hui, c'est un peu Instagram, le culte de la personnalité, si j'ose dire.
C'est vrai.
Mais t'as raison. Enfin, moi, je trouve ça honorable, justement, de montrer que toi, t'es pas là pour toi, mais pour partager ton art. Et c'est vrai que les artistes, je pense, ont plus tendance à le faire déjà. Ouais. Ce qu'ils aiment, c'est leur art, moins eux-mêmes. J'ai lu une phrase dans une de tes interviews aussi que j'ai beaucoup aimée. Je conçois la femme comme un sexe fort qui n'a besoin de personne et qui peut exister par elle-même. Tout l'inverse de la femme objet. Et je me suis dit pourtant, notamment du fait de la représentation de la femme dans l'art, ou du moins dans la publicité ou dans le monde de la mode, c'est comme ça qu'elle est perçue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, à ton avis, artistiquement, pour parvenir à rétablir, ou plutôt à établir, une image de la femme qui soit égale à l'homme?
Bah, il me semble que cette phrase, je l'ai dite au sujet de la collaboration que j'ai faite avec Undiz.
Ouais.
Voilà. Et donc, j'en profite pour parler de cette collaboration. Et pourquoi j'ai dit cette phrase? C'est que déjà, je trouve qu'en s'amusant à porter un statement, aujourd'hui c'est très à mode d'apporter son statement, je pense déjà que ça peut faire avancer les choses.
Ouais.
Que les nanas montrent qu'elles mettent ce qu'elles veulent et le message qui est dessus peut aussi être en cohérence avec elles-mêmes et elles s'en foutent du regard extérieur.
Ouais.
Donc,
chose que j'applique.
Voilà. Moi je suis plus dans ce genre de pratique et d'action que vraiment l'engagement politique ou quoi que ce soit. Mais voilà.
D'accord, donc pour toi, c'est plus à la femme de se dire « je m'en fous, whatever
».
Parce que pour le faire...
De porter, l'assumer...
Ouais. Bah pour faire ça, tu vois, malheureusement, le problème, c'est les autres. Parce que, enfin, moi, je pense que ça passe par une évolution de la représentation de la femme dans l'art, dans la publicité, voilà, dans la mode. Parce qu'aujourd'hui, elle est trop considérée comme justement un objet ou un objet de désir et restreinte à ça. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que du coup, le patriarcat, entre guillemets, est très content de voir la femme représentée comme telle par image, alors que quand elle décide par elle-même d'être objet de désir dans la rue ou comment elle s'habille, là, c'est critiqué. Ouais, et ça dérange. Je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Donc ça fait vraiment, je trouve, marionnette. Et donc, je pense que ce que tu fais, par exemple, il aide à montrer déjà, à rétablir en tout cas une égalité.
Surtout sur un ton un peu d'humour et
ouais voilà, ouais et encore posé. Tu trouves que c'est de l'humour toi ce que tu fais parce que moi je
non c'est pas de l'humour au premier abord mais il y a une légèreté disons
il y a une légèreté ouais
j'ai
voilà.
tendance à associer l'humour et la légèreté
ouais ok non mais je vois le point de vue mais en tout cas à montrer
c'est pas du drama il y a pas de drama
ouais et en fait juste tu montres
dans le romantisme et dans le
ouais ouais mais je trouve que du coup tu montres et c'est déjà beaucoup enfin de montrer la femme comme l'homme dans des scènes comme l'homme et c'est ce qui manque aujourd'hui je pense de montrer la femme dans un rôle qui est égal à l'homme donc et ça on le voit dans les pubs encore une fois il y a des montages de vidéos comme ça sur YouTube qui sont faits comparaison où genre, j'en ai vu une si l'homme était une femme dans la pub et ce serait mais tellement absurde donc bon en tout cas l'appel est lancé hein.
Ouais non mais c'est il y a beaucoup de progrès dans plein de domaines et ça se fait petit à petit de toute façon
ouais.
Mais je pense d'ailleurs aux jeux vidéo j'aime bien les jeux vidéo
ouais.
Mais là il y a complètement un nouveau mouvement du vidéo où on a que des héroïnes en ce moment et je trouve ça cool ils essayent justement de prendre de
c'est vrai qui a les mêmes rôles que l'homme
oui.
Dans les jeux
que, bah, c'est juste que le personnage il est changé en sexe féminin
ouais,
et qui va avoir les mêmes pouvoirs les mêmes forces
ouais. Mais c'est con, mais c'est des choses comme ça, en fait, qui vont faire changer les choses. Parce que les gamins qui jouent à 3 ans,
exactement.
Bah, du coup, ils vont les
considérer
comme
tels. Ça dérange les joueurs de 30 ans, parce qu'ils ont passé 30 ans à jouer que des gros bonhommes musclés qui délivrent des princesses. Maintenant, c'est l'inverse. Et eux, ça les dérange.
Écoute, bah, tant pis pour eux. Ils vont s'habituer.
C'est clair.
Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que ce que tu fais est vulgaire?
Je... Le répond même pas, parce que je considère qu'on n'est pas dans le même monde.
Ouais. Il y en a beaucoup ou pas ?
Oui, je reçois des messages, et puis il y en a certainement beaucoup, puisque j'ai eu beaucoup de posts qui ont été reportés, et j'ai mon compte qui a été supprimé, donc
ouais.
Ça provient de gens. Mais non, moi, je m'efforce à justement garder ma ligne éditoriale et ne pas tomber dans la vulgarité.
Ouais.
Donc j'espère ça n'arrivera pas un jour.
C'est toi qui te fixes en gros ta propre limite. Tu te dis juste moi ce que j'ai envie de montrer,
ouais,
je le montre.
Après je me suis amusé à dessiner des choses un peu plus trash et tout et ça me plaît pas. Juste je regarde le dessin et je l'aime pas.
Ouais.
Juste le fait qu'on comprenne et qu'on voit ce qui se passe, pour moi c'est
ça enlève.
N'est plus du tout intéressant.
D'accord. Toi du coup, est-ce que tu choisis entre guillemets les uns que tu veux faire? Ou parfois, t'es un peu obligé aussi de voir ce qui plaît, tu te poses la question de ce que les gens aimeraient voir. Je me demande, parce que c'est toujours un peu compliqué quand tu dois plaire aux gens, mais d'un côté, un artiste fait avant tout ce qu'il aime.
Y a des dessins, il y a des thèmes, des thématiques qui ressortent et qui sont appréciées. Notamment, après ça évolue, c'est dur de faire une généralité, mais pendant un long moment, les dessins de mains, parce que j'ai fait toute une série sur des mains, qui se tiennent, des mains de couple. Et ça fonctionne très bien et c'est très apprécié par le public parce que justement, il y a quelque chose d'érotique parce que tout ce qu'il y a autour, tous mes dessins sont érotiques. Donc on imagine que la main renvoie à quelque chose d'érotique. Mais c'est plus léger, ça laisse vraiment la place à l'imaginaire. On peut imaginer un couple, on ne sait pas qui c'est, est-ce que c'est un homme, une femme, deux femmes, deux hommes. Donc ça marche très bien. Et oui, y a des moments où je me suis dit, bah tiens, je vais dessiner demain aujourd'hui parce que je sais que ça va marcher.
Ouais.
Mais je me suis pas trop corrompu moi-même en le faisant. Et y a une série que moi que j'aime beaucoup et qui plaît aussi, mais qui est très. Qui est, je pense, la série qui m'a apporté le plus de problèmes sur les réseaux et notamment la censure. C'est ma série qui s'appelle Sunday Worship.
Ouais.
Qui est des représentations de Cunnilingus. On voit pas le cunnilingus, mais voilà, ce sont des femmes qui reçoivent des cunnilingus. Et c'est fou, ce sont les dessins qui marchent le mieux, mais qui génèrent le plus de problèmes au niveau de la censure.
Mais ça, je crois que ça va
être tabou aujourd'hui.
Je crois que ça va de pair, en fait. Plus tu attires du public ou des personnes qui t'aiment, plus t'as des chances d'attirer des gens qui t'aimeront pas.
Tout à fait, ça va avec.
Ouais, ça va avec. Et je pense que, ouais, il faut
d'ailleurs,
en fait, l'accepter.
D'ailleurs, même plus, peut-être.
Hein.
Plus de gens qui t'aiment pas, qui t'aiment. Mais...
Ah, tu penses?
Je
sais pas. Bon, tant que toi, tu fais ce qui te plaît. En fait, moi, c'est ça, je me dis toujours... comme tu dis, on peut faire ce qui plaît aux gens, mais avant tout, si toi, ça te plaît pas, voilà, on le fera pas. Donc si ça te plaît, t'as raison de continuer avec. Et si en plus, tu vois que ça touche des gens et que, oui, ça les aide, ça aide la femme, je trouve ça juste tellement dommage. J'aimerais bien voir qui signale, tu vois. Déjà, proportionnellement,
est-ce
que c'est... Ouais. Non, mais s'il y a plus d'hommes que de femmes qui signalent, quel âge ils ont... Parce qu'en fait, moi, je me dis vraiment, mais si jamais tu ne veux pas le voir, ne le regarde pas, tu vois, le dessin.
C'est ce que je pense aussi. Je pense qu'on a le choix. Il faut pas oublier. Et les gens oublient, malheureusement, avec les réseaux sociaux, les gens oublient qu'ils ont le choix.
Ouais, même te bloquer, tu vois, par exemple. Ils peuvent te bloquer.
Parce que c'est comme dans la rue, tu te balades, tu peux voir quelque chose qui te dégoûte, tu ne vas pas le regarder, tu vas détourner le regard. Ouais. C'est naturel.
Ouais.
Mais sur les réseaux, les utilisateurs ont tendance à penser que c'est leur réseau et que ça doit ressembler, ça doit être propre
comme
à leur
eux,
image.
Ouais,
comme si tout était né avec eux du jour au lendemain. Et non, enfin, c'est...
C'est clairement pas le cas.
Exactement, ils vont pas faire ça... Enfin, ils se permettent de faire ça que sur le réseau, mais dans la vie, ils ne se permettent pas de le faire.
Ouais, non, je suis d'accord. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup cette histoire de... Déjà, on se sent plus puissant derrière un écran.
Ouais.
Et des personnes qui veulent convertir les autres, on va dire, à leur propre mentalité, à leur propre philosophie. Ça, c'est toujours quelque chose pour lequel j'ai eu du mal. Pour moi, c'est irrespectueux, en fait. T'as le droit d'avoir ton avis... Mais d'essayer de détruire l'art de quelqu'un d'autre ou de forcer les gens à penser pareil que toi, je trouve ça très fermé d'esprit. Mmh. Chacun fait ce qu'il veut. Tu dis aussi qu'il y a un véritable esprit de concurrence sur Instagram, notamment vers les personnes qui font de l'art dans le même style.
J'ai dit ça.
Ouais, t'as dit ça, mais t'as dit que toi, par contre, t'aimerais bien les rencontrer, mais que tu sentais qu'il y avait cet esprit de concurrence sur Instagram.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Et je me suis dit, pourquoi est-ce que tu penses qu'il manque un peu cette bienveillance? Et est-ce que toi, t'as déjà essayé de contacter des artistes dont t'apprécies le travail sur Instagram, ou de les rencontrer
Alors, c'est une bonne question, parce que tu me fais remarquer que c'est vrai que j'ai pas passé le cap et que j'ai pas démarché des artistes...
Après, t'es pas obligé, hein, mais je me suis posé la question si les artistes aimaient se rencontrer ou s'il y a un certain ego peut-être.
Bah, après, moi, je parle dans ce milieu du dessin érotique et notamment de la ligne claire et de la plat. Voilà, il y a pas mal de comptes qui sont identifiables dans ce style-là. Et j'ai reçu des messages directement de ces artistes-là m'accusant de plagiat. Alors qu'il n'y a eu aucune discussion avant, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Et donc voilà, donc je trouve ça un peu fermé d'esprit et un peu enfantin d'attaquer des gens sur le même domaine, souvent dans le même pays, et les accuser de plagiat. Je ne vois pas à quoi ça nous amène, en fait, où ça nous amène tout ça.
Je crois qu'en fait, c'est à moi une histoire d'ego. Hein. Enfin,
oui,
moi, pour le coup, il y a des posts, tu vois, qui ont été... Moi, je fais parfois des montages originaux avec des légendes, des écritures sur les photos. Et pour le coup, il y en a qui se sont faites par pas mal de gens, donc c'est un phénomène global. Il y en a juste une que je sais que c'est moi qui l'ai lancée, parce que je le sais, tu vois, personne n'avait jamais fait avant.
Tu peux pas le prouver.
Non, c'est dur à prouver, mais en gros, enfin vraiment...
Tu l'as vu partout après.
Je l'ai pas vu partout, mais je l'ai vu beaucoup reprises. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis contente, en fait, parce qu'en plus, c'était un message d'acceptation de soi. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est, tu vois, dans les légendes, quand les personnes te disent, s'approprient vraiment la chose, ils disent, limite s'approprient, entre guillemets, l'origine. Et pour le coup, moi, je trouve ça bien sur Instagram quand on donne, par exemple, le nom de la personne qui nous a inspiré. Alors, pour le coup, pour le dessin, c'est beaucoup plus dur, parce que tu vas pas taguer à chaque fois, regard coupable, m'inspirer à faire ce dessin, regard coupable, m'inspirer à faire ce dessin. Mais... Je pense que je comprends, entre guillemets, les personnes, s'ils pensent vraiment que tu les as plagiés, ils vont se sentir vachement attaqués. Mais je trouve que, pour le coup, toi, je vois pas... Même s'il y a une ressemblance dans le dessin, je trouve que t'as quand même un style particulier. Et je trouve ça un peu gros d'aller voir en mode « tu as voulu faire pareil que moi et tu copies totalement mon style ». Parce que je trouve que le dessin, on peut pas copier. Enfin, personne n'a la même plume, tu vois.
Oui,
le même
bien
coup
sûr,
de main.
Personne n'a la même plume. Après, il y a des groupement d'artistes, de techniques qui peuvent se ressembler, et je trouve ça d'ailleurs assez dingue de la part d'un artiste d'oser dire que quelqu'un l'a copié. Je trouve ça très prétentieux, puisque si t'es un artiste, au moins étudie un peu quand même l'histoire de l'art et tu te rends compte que les thématiques ce sont les mêmes depuis des milliers d'années et qu'on ne fait que reproduire ce qui a été fait.
Ouais.
Ok, on le réinterprète, on essaye d'apporter une petite nouveauté, mais moi-même Je en aucun cas
tu prétends
je vais
apporter,
prétendre que j'ai inventé le dessin érotique au trait noir. J'ai des inspirations et je peux sortir énormément de références, et je l'assume totalement avoir des références, donc voilà, donc je trouve ça un peu mal placé et ça manque d'éducation, en fait.
Je vois ce que tu veux dire, Je trouve qu'Instagram a complètement bouleversé le rapport à l'art, avec regard coupable par exemple, tu dois poster un dessin par jour presque pour qu'ensuite il soit un peu, entre guillemets, oublié au milieu des autres.
Tout à fait.
Est-ce que c'est difficile à accepter en tant qu'artiste, ou est-ce qu'au contraire, ça te stimule créativement parlant.
La vision que j'ai de ça évolue énormément, puisque pendant longtemps j'ai publié des dessins en effet tous les jours sans vraiment savoir vers quoi j'allais. J'avais pas de but, j'avais pas de finalité, de deadline, d'exposition, de collab, donc c'était assez flou. Mais il y avait un enthousiasme de la réaction du public, etc. Donc ça m'allait très bien. Mais aujourd'hui, après avoir dessiné plus de 1200 dessins en 2 ans, c'est vrai que je suis un peu triste de voir tous ces dessins juste
relégués
sur ma
quoi.
Page. Et puis on sait tous que les gens ne vont pas consulter un profil entier d'Instagram.
Ouais,
tu vas juste swiper 3 fois et tu vas
t'en
aller. Donc maintenant, j'ai une démarche très différente, c'est de réussir à réexploiter ces dessins, mais pour qu'ils aient un meilleur impact.
Ouais.
Donc, par exemple, je vais reprendre des dessins que j'aime, et je vais en faire des peintures, je vais faire des très beaux tirages pour des expositions, ou alors je propose une archive de dessins à des annonceurs ou des clients qui veulent collaborer avec moi, et là, ils vont pouvoir avoir un choix de dessin.
Donc, d'accord.
Au final, je me dis que c'était pas du travail pour rien.
Ouais,
et
tu leur donnes une seconde vie.
Exactement, j'essaie de leur donner une seconde vie et je trouve ça assez cool.
Non, je suis d'accord. Et est-ce que c'est difficile de trouver de nouvelles idées, toi, pour tes dessins? Parce que même si l'amour, l'érotisme, il y a quand même matière à, parfois, moi, je dessine pas du tout, tu vois, mais je me dis que ça doit être un peu compliqué d'essayer d'innover. Tout en restant fidèle à soi-même. Est-ce que parfois t'as pas fait le tour? Enfin, je sais pas.
Bah, je pense que le but n'est pas spécialement d'innover. D'ailleurs, quand on voit tout l'ensemble de mes dessins, on a l'impression de voir plusieurs fois le même. En fait, c'est jamais le même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'explorer le corps sous tous les angles possibles. Et comme tous les corps sont différents, même si on a l'impression que c'est la même nana à chaque fois, c'est pas du tout la même. Il y a beaucoup de détails qui changent. Mais donc voilà, je me pose pas la question d'innover. Je me dis pas, est-ce que le prochain dessin va être si différent que ça que des autres? Non, c'est...
D'accord. Non, mais c'est marrant, tu vois, comme quoi je me rends compte des démarches différentes selon les personnes. Moi, j'essaye vraiment d'innover dans mes photos, d'essayer de proposer des trucs différents, mais quand tu vois, on fait pas du tout la même chose. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir... ce qui motive derrière et toi, c'est le résultat entre guillemets que tu veux donner.
Après, j'ai des opportunités d'innover, et notamment là, j'ai une nouvelle exposition qui commence le samedi 20 octobre.
Ouais, jusqu'au 3
novembre. Et là, je me suis amusé justement à créer une nouvelle série qui est différente d'Instagram. Sur Instagram, tous mes dessins sont sur fond clair et ne sont pas fermés, c'est-à-dire que les lignes sont ouvertes.
Ouais.
Là, pour mon exposition, j'ai fait des dessins recadrés sur fond noir, donc comme enfermés en fait. On est enfermé dans un close-up, dans un détail d'une scène érotique. Donc voilà, c'est une démarche différente,
ouais,
tout en gardant le même style.
Vraiment.
Voilà. Donc là, il y a un peu d'innovation, mais parce qu'il y a une vraie finalité, c'est que je
une
vais...
Une exposition derrière.
Exactement.
Donc du coup, vu que tu parles de l'exposition, j'avais noté que tu étais du 20 octobre au 3 novembre au Montana à Paris, et que tu avais aussi été à Londres et à Los Angeles cette année.
Alors je n'ai pas été à Londres, je devais exposer à Londres, mais ça ne s'est pas fait.
D'accord, bon, peut-être plus tard.
Oui, oui.
Mais du coup, est-ce que je me suis demandé, est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi? Et comment tu définirais la réussite? Parce que pour moi, un artiste, je me dis, à partir du moment où il est exposé, c'est une forme de consécration. Est-ce qu'on peut se dire, du coup, j'ai réussi?
Oui, je dirais oui et non, parce que tout le monde peut exposer. Je veux dire, tu peux très bien louer une salle et j'expose. Est-ce que ça fait de moi un artiste qui a réussi? Je ne sais pas. Non, là où je considère, où je suis vraiment heureux d'avoir réussi, c'est que mon nom est reconnu et connu, mon style est reconnu et connu, et ça m'ouvre des portes.
Ouais.
Donc ça, je considère que c'est une véritable réussite pour moi, et dans ma vie, dans mon activité. Après, je suis encore un peu frustré parce que j'ai envie d'explorer beaucoup de médiums. Il y a des choses que j'aimerais faire, mais techniquement, je ne suis pas encore prêt pour les faire. Donc non, je considère que je n'ai pas encore totalement réussi et que j'ai encore pas mal de choses à faire.
Je me demande en fait si, moi personnellement, si on peut considérer un jour qu'on a réussi. Je me demande si à un moment on peut se dire j'ai réussi là.
pense que c'est une question de caractère, mais...
Ouais, parce que, ouais, moi, je pense que c'est pas le mien. Parce que comme on a toujours, pour moi, une marge de progression, ce serait vraiment se contenter et arrêter d'essayer de s'améliorer.
Ouais, ouais, je suis d'accord.
Donc après, il y a une différence entre la réussite et la fierté. Tu vois, on peut être fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a accompli, mais quand même vouloir aller plus loin. Mm-hmm. Mais c'est ouais, je pense que c'est très personnel, la définition de la réussite. C'est pour ça que je demande généralement... Enfin, parfois, je pose cette question aux invités pour voir justement comment eux l'appréhendent. Parce que bon, il y a du vrai un peu dans chacun, et c'est intéressant de voir qu'on peut tous avoir des définitions super différentes de ça.
Tout à fait.
Tu expliques aussi dans une de tes interviews que Regard Coupable a vocation à devenir un projet musical. Est-ce que l'art, pour toi, a vocation à s'appréhender justement à travers différentes disciplines ?
Alors moi, c'est en effet ma vision de l'art et ma sensibilité, puisque j'ai différentes formes d'expression. Mm. Je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans, je fais du dessin, je fais de la vidéo. Voilà, moi-même, je touche un peu à différents domaines de l'art, donc c'est assez naturel de les relier. Mm. Et notamment... Ce que j'aime le plus, c'est de réaliser un clip pour une musique. Et quand je peux réaliser un clip pour ma propre musique, là, c'est
la consécration.
Exactement. Parce que ça réunit à la fois la musique et l'image, et le lien entre les deux, la passerelle entre les deux.
Ouais.
Mais après, voilà, les domaines que j'ai cités sont assez réduits. Je peux pas, j'ai pas spécialement envie de me lancer dans le long métrage ou la sculpture, parce que c'est des choses qui... Donc je suis moins sensible peut-être.
Ouais.
Mais oui, en tout cas moi, je pense que ça vient de mon éducation et de ma sensibilité. J'ai tendance à vouloir relier, relier différents domaines de l'art pour que ça fasse un tout. J'aime bien un peu avoir cette vision générale qui doit provenir de ma formation de directeur artistique. Et notamment, j'ai travaillé pendant 2 ans en boîte de production et je m'occupais justement que tout le projet à la fois... l'image, la musique, le design, le site, que tout soit cohérent et bien tout se soit allié.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout de ce que tu faisais avant Regard Coupable. Du coup, en sortant de Penningen, t'as rejoint le circuit traditionnel du salariat ?
Non, oui, j'étais freelance parce que
d'accord.
C'était assez particulier. J'ai été pris dans une boîte de prod qui s'appelle Quad, qui est une grosse boîte de prod qui fait de la pub et du long métrage.
Ouais.
Et c'est un ancien Penningen qui m'a embauché. D'abord. Mais comme c'était une nouvelle boîte, c'était le département digital de Quad, et qu'ils n'étaient pas du tout organisés, et qu'ils n'avaient pas la trésorerie pour pouvoir salarier, j'ai été pris en freelance, mais je bossais 15 heures par jour sur place en freelance. Moi, ça m'allait très bien, je m'en fous.
Ouais, ouais.
Je ne suis pas regardant sur les conditions, les contrats, je m'en fous.
Ouais, ouais.
Mais donc déjà, j'étais dans un environnement particulier.
Ouais.
Je n'ai jamais connu le salariat de ma vie.
Moi non plus.
Et j'ai travaillé donc pendant 2 ans, 2 ans et demi chez Quad. J'ai fait vraiment une expérience incroyable. Après ces 2 ans, j'en pouvais plus. J'ai fait un craquage total de la publicité.
Okay.
Parce que vraiment, je
parce que ça me dégoûtait. Beaucoup moins de liberté en fait.
Oui, j'avais pratiquement. Puis j'avais comme des libertés, mais il y avait tellement de gens impliqués et la finalité c'était une commande pour un annonceur.
Ouais.
La
question du sens est importante.
On a beau s'éclater pendant toute la fabrication, mais ça se terminait toujours. C'est le projet de l'annonceur et on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. Et...
Trop de contraintes.
Ouais. Non, les contraintes, c'est bien. Il faut avoir des contraintes dans la vie pour pouvoir faire des choses, je pense. Mais non, c'est tout. C'est juste tout l'environnement qui n'était pas très sain. Je voyais beaucoup de chiffres de zéro sur les budgets, mais derrière, on payait très mal les gens. Voilà, donc tout ça m'a un peu dégoûté. Et j'ai décidé de me consacrer à la musique pendant 2 ans. J'ai monté des groupes de rock et j'ai fait des tournées dans l'Europe entière. Mais sauf qu'au bout de 2 ans de musique, j'avais plus un sou et il fallait bien que je mange.
Ouais.
Donc j'ai repris un peu la freelance. Et en parallèle, c'est là où j'ai commencé à regarder petit à petit.
D'accord, ouais.
Voilà.
C'est une volonté d'indépendance d'un côté et d'exprimer.
Exactement.
C'est souvent comme ça que ça naît, c'est marrant. Je me demande aussi, parce que là, on a dérivé tes dessins, mais je voulais te demander quand on en parlait, d'où tu tires l'inspiration des femmes. Parce que comme tu dis, pour toi, c'est jamais la même. Du coup, est-ce que ça vient de femmes que tu connais vraiment
Non.
Est-ce que tu les imagines
J'ai différents. Il y a différents dessins. Il y a une série que j'appelle Les Muses, qui est sur mon highlight, mon Instagram, qui sont des personnes que je peux connaître ou des personnes que je connais pas, mais ce sont des personnes qui existent,
ouais.
qu'on peut retrouver facilement,
ouais.
et je les tag, et ce sont juste des portraits. Ouais. Disons, ce sont des femmes qui m'inspirent, et c'est des nanas toutes très différentes, d'âge très différents. Donc ça, ce sont des gens qui existent, mais pour les autres, pour la série de dessins sur Instagram, c'est je récolte énormément d'images et de vidéos. Je passe plus de temps à faire des archives, à récolter des documents qu'à dessiner. Et voilà, c'est un peu un mix de tout. Je peux mélanger des images ou partir juste d'une. Et j'ai mis beaucoup de temps à assumer le fait d'avoir des références et de passer du temps à me documenter. Parce que j'avais l'impression d'être un imposteur. Mais bon, c'est une connerie. Maintenant, je trouve que c'est une grosse connerie. Et j'assume. Et j'assume même le fait que ma source d'inspiration est sur Internet. Donc, c'est des images qui proviennent d'Internet. Et j'aime bien dire que je m'inspire d'une poubelle, en fait. Parce qu'Internet, il y a énormément de choses. C'est genre trop d'informations.
Ouais.
Et parmi ces informations, les trois quarts sont des informations mauvaises, vulgaires, de mauvaise qualité. Donc j'aime bien me dire que je pioche dans ces images vulgaires et
reléguées, quoi.
Oui, et puis non esthétiques, communément non esthétiques, pour les transformer, pour les transcender et
les en faire améliorer,
des œuvres
ouais.
minimalistes.
Ok, ouais, donc c'est une belle démarche.
J'assume la démarche.
Non, mais en plus, je trouve ça, je trouve ça intéressant vraiment et valorisant même de voir qu'il y a un travail de recherche derrière. Mais tu vois, c'est fou comme on a tendance à parfois s'auto-flageller en disant que c'est pas noble.
J'ai pensé ça de moi-même parce que des gens médisants ont pu me le dire. Je me suis fait attaquer plusieurs fois par des gens qui ont retrouvé une image qui m'avait inspiré et qui ont sauté dessus pour essayer de me détruire sur le réseau en disant « Ah bah tiens, regardez cet artiste, il n'invente rien. »
Il
y a ce fameux mythe du dessinateur qui doit tout sortir de sa tête.
Non, c'est comme tu dis, donner vie à ce qu'on veut.
L'écrivain lit des livres, elle s'inspire. Ouais. Le cinéaste regarde des films, elle s'inspire. Pourquoi le dessinateur ne pourrait pas regarder des images?
Surtout que si on pense aux peintres les plus connus, moi j'adore Monet, il se mettait devant un paysage et il le peignait, tu vois. Il ne l'a pas inventé, donc tu as raison de le signaler. Et en parlant de cinéma, est-ce que tu aurais un film que tu conseillerais à nos auditeurs?
Je suis en train de regarder la première saison de Cobra, qui est une série d'animation des années, je ne sais plus d'ailleurs, peut-être fin 70-80, j'imagine.
Ok.
Qui est très particulière, mais qui est très datée, et j'aime beaucoup cette période-là. Parce qu'il y a aussi beaucoup de nanas dans la série, des super-héros et tout, donc j'aime bien. Et sinon, en film, qu'est-ce que je pourrais citer comme film?
C'est toujours difficile d'en citer un, donc si tu veux en citer plusieurs...
Non, il y a une actrice... qui a inspiré d'ailleurs la bande dessinée qui s'appelle Valentina de Guido Sepax. Et cette Valentina est inspirée de l'actrice qui s'appelle Louise Brooks, qui est une actrice des années 30, que j'aime bien en termes de figure féminine, j'aime beaucoup.
Ouais.
Elle a joué dans plein de films, je ne vais pas les citer, il suffit juste
de taper son nom.
Voilà, taper son nom, regarder. Après, c'est des films assez vieux, donc il faut être capable de les regarder.
Le dernier bon film qui t'a plu?
Non, j'essaie de faire un lien avec Regard Coupable quand même.
t'es pas obligé, mais... Comme tu veux. Déjà, t'as cité, cité Louise Brooks, je pense que
c'est suffisant.
Et j'ai une dernière question pour toi, la question signature du podcast. D'accord. Cela signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
De sa vie ou sur sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie.
D'accord. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est se sentir bien tous les jours, être maître de ce qu'on fait, ne pas subir bêtement ce qui nous entoure.
Ouais.
Être décisionnaire de ce qu'on fait, prendre des décisions.
Super. Merci beaucoup à toi, Regard Coupable, d'être venu sur InPower.
Merci
pour les personnes qui nous écoutent, donc on les redirige forcément vers ton compte Instagram que je mettrai dans les notes, @regardcoupable. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaites les rediriger?
Sur mon site, regardcoupable.com, il y a toujours des nouveautés, des nouveaux produits. Et notamment, cette semaine va sortir les nouvelles chaussettes et les nouveaux pins.
Ouais, que je mettrai en story sur Instagram.
Ouais.
Super, merci beaucoup à toi, Regard Coupable.
Merci.
Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette discussion avec Regard Coupable. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en nous taguant dans vos stories @mybetter-self et regard-coupable. Ça nous fait toujours vraiment super plaisir. Un grand merci par avance et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode d'InPower.